Voici le dossier de Marie-France Martel.
Marie-France.
Bonjour, Martin.
Parlons d'abord de ces deux autres accusés de l'agression sur la rue Chauveau, dont l'instigatrice... ces gens-là ont pu reprendre leur liberté?
Oui, le juge Conrad Chapdelaine qui a rendu sa décision cet avant-midi. On parle de liberté, mais sous de sévères conditions pour Rose Pruneau et Maxime Hérout Dineuve. Je vous rappelle que les deux font face à des accusations de vol, de complot, d'introduction par effraction en lien avec toute cette affaire survenue rue Chauveau. Et ce que dit le juge Chapdelaine, c'est que la preuve contre eux, elle est forte et il est plus que probable, et je le cite, que les deux soient déclarés coupables parce qu'on est devant une preuve qui est assez
accablante,
mais on est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qu'il a dit. Alors, dans ce cas-ci, ils sont jeunes, les deux accusés, on parle d'une vingtaine d'années, 20 ans pour Rose Pruneau et 19 ans pour Maxime Hérout Dineuve. Et dans le cas de Rose Pruneau, ce que le juge Chapdelaine a dit, c'est que son implication à elle, elle est totale dans cette affaire-là. Elle a organisé l'agression contre son ex-conjoint avec 4 complices. Et elle a voulu se venger parce qu'il lui aurait volé une once de cannabis. Donc, ils sont allés sur la rue Chauveau pour lui tendre un guet-apens. Elle s'est assurée que tout le monde soit là. Et là, ils lui ont volé argent, cellulaire, clé du plaignant.
Introduction par effraction.
À son logement pendant qu'il était à l'hôpital pour y dérober, entre autres, des objets électroniques. Et ce qui est ressorti, c'est qu'elle voulait aussi lui voler sa liste de clients consommateurs de drogue parce qu'elle a un problème de consommation. Ça a été évoqué brièvement, possiblement.
Ben si là, si tu voles la liste de clients...
Ou, c'est ça, il y a une vengeance qui était derrière tout ça. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va intégrer une maison de thérapie, le domaine personnage, pour traiter son problème de drogue, consommation de cannabis, mais aussi d'alcool. C'est ce qui est ressorti hier. Depuis 3 ans, elle a un problème à ce niveau-là. Et ce que le juge a dit, bon, elle a 20 ans, elle vient d'un milieu familial qui semble la soutenir. Il y a des garanties monétaires qui sont offertes. Il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Alors, pour lui, que Rose Pruneau se retrouve en maison de thérapie, c'est correct pour le tribunal. Et pour Maxime Hérout Dineuve, même chose. Lui, il aurait aidé Rose Pruneau à planifier l'agression. Donc, il y a une implication également dans cette affaire-là.
Okay.
Et lui, il devra demeurer chez ses parents qui ont pris des engagements aussi pour lui au niveau monétaire. Et les deux devront respecter un couvre-feu. Il leur sera interdit, entre autres, de contacter les autres complices, également le plaignant dans cette affaire-là. Et il y avait plusieurs proches de Rose Pruneau qui étaient dans la salle de cours. Ouais. Elles le font en larmes régulièrement lors des procédures. Et aujourd'hui, donc, elle a pris le chemin du centre de thérapie.
Oui. Est-ce qu'on sait comment se porte la victime là-dedans?
On n'a pas eu de nouvelles de la victime. On nous avait parlé de coups au visage, principalement, de coups sur le corps, mais rien là, pour faire craindre pour sa vie.
Bon, série de vols dans des magasins Walmart au Québec. Il y a deux frères qui se retrouvent devant le tribunal. Là, ça n'a rien à voir avec les musiciens.
Non, on parle des frères Luc et Stéphane Poliquin qui font face à une douzaine de chefs d'accusation de fraude envers une vingtaine de magasins Walmart au Québec. Eux, ce sont des gens de Montréal qui utilisaient différents stratagèmes et qui auraient sévi, entre autres, au Walmart de Magog. Et c'est là qu'ils se sont fait prendre, qu'ils ont été arrêtés. Alors, c'est pour ça que le dossier se retrouve ici à Sherbrooke.
Et ça, c'était grâce... Je me souviens d'avoir fait l'entrevue avec les gens de la régie de police, Manfred Magog. C'était grâce à la vigilance, en route d'employés, d'agents de sécurité, la police qui était intervenue là-dedans, qui avait comme flairé là, l'affaire.
Oui, parce qu'en fait, leur façon de procéder, c'est que... Ces frères-là achetaient différents biens au Walmart. On parle entre autres d'appareils électroniques, d'aspirateurs, de vêtements. Donc, ils sortaient avec leurs biens qu'ils venaient tout juste de payer et ils revenaient un petit peu plus tard avec le panier vide. Et là, ils allaient chercher exactement le même objet qu'ils venaient d'acheter, mais ils se faisaient rembourser donc avec leur facture. Donc, il disait, je veux un remboursement, ça ne fait pas mon affaire, tel produit qu'il venait d'aller chercher sur les tablettes, finalement. Alors qu'ils avaient l'autre.
Il l'achetait, il sortait.
Oui, et là, il allait chercher le même, sur la facture.
Mais met l'affaire dans l'auto.
Oui.
Rentre à nouveau dans le magasin, prend un panier, va chercher le même item, met ça le panier, puis après ça, se présente au service à la clientèle
pour dire,
avec leur facture de l'autre.
Tout à fait. Parce que c'était le même produit. Fait que sur la facture, les caissières disaient, OK, on vous rembourse. Fait qu'on parle d'une fraude d'à peu près 11 000 $ qui se serait déroulée en 2017-2018. Donc, ils ont récupéré, si on veut, 115 % de leur vol parce qu'ils se faisaient rembourser.
dans le fond. Là.
Donc là, il reste à éclaircir toutes sortes d'éléments. C'est ce qui a été dit ce matin au tribunal. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des plaidoyers de culpabilité dans cette affaire-là. Le ministère public qui va faire une offre de règlement à la défense. Ouais. Mais quand même, ils ont sévi dans une vingtaine de commis.
Ben c'est ça. Puis ça vient dire aussi aux gens du service à la clientèle. Mm. Assurez-vous que c'est le même produit dans le sens que c'est le bon numéro de série. Parce que souvent avec la facture, le code. Tu peux faire la validation.
C'est ça, mais eux, possiblement, qui voyaient juste un aspirateur. Ah, oh, OK, on va vous rembourser.
Ah, c'est la bonne marque, c'est ça, merci, bonsoir. Exact. Ça va vite, des fois, là.
Ben 11 000 $ là, on parle de quand même.
Ben oui, surtout, exemple, un téléviseur, tu sais, les gros écrans plats, là, 800-900 $ ça va vite, là, des fois. C'est plus que ça, même pour... certains types
de
téléviseurs.
Il y avait des robots d'alimentation qui étaient volés, des vêtements, toutes sortes d'affaires.
Eh, boy. mais en tout cas, c'est un bon rappel pour...
la vigilance.
La vigilance des services à la clientèle. Et retour aussi devant le tribunal du propriétaire de Sieur-Jutras de Saint-Césaire. Rappelle-nous pourquoi ce gars-là est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort.
Samuel Jutras, en fait, lui, c'est le propriétaire de cette entreprise-là. Il est accusé en lien avec le décès d'un de ses camionneurs qui s'appelle Sylvain Ferguson. Ça se passait à Magog en janvier dernier. L'homme, donc, était dans son camion lourd. Il a fait une embardée sortie de l'autoroute 55.
Il avait continué son chemin.
En fait, il livrait du matériel pour Sieur-Jutras. Et Samuel Jutras, lui, comme employeur, il est accusé en lien avec l'entretien du véhicule parce qu'il n'aurait pas fait adéquatement inspecter ou en tout cas entretenir les camions. Et là, aujourd'hui, ce qui a été dit au tribunal, il n'était pas présent, c'est qu'il change d'avocat. L'avocat qui le représentait a demandé au juge une requête pour cesser d'occuper. Et ce qui a été mentionné, c'est que c'est une avocate de Québec, Maître Sophie Dubé, qui va représenter Samuel Jutras. Donc, le dossier a été reporté au 23 septembre prochain. Et ce qui avait été dit, c'est que comme employeur, Samuel Jutras doit respecter des conditions. Il doit fournir du matériel sécuritaire à ses employés et s'assurer aussi du maintien en bon état de la flotte de véhicules de Sieur-Jutras. Donc, il faudra voir pour la suite des choses dans ce dossier-là. Mais c'est quand même
graves,
particulier
là.
De négligence criminelle causant la mort comme employeur pour des camions mal entretenus.
Oui.
Parce que l'enquête révélait qu'il y avait un lien à faire.
C'est ça. Mais ça pourrait aussi faire pas mal jurisprudence.
Oui.
À moins qu'on me dise qu'il en existe déjà de
c'est
ce
rare.
Type de jurisprudence. Mais en tout cas, ça peut exister, mais... Il reste quand même que si ça allait jusqu'au bout et qu'il y avait cette reconnaissance, donc cette culpabilité, faut s'attendre à ce qu'il y ait bien des employeurs qui prennent certaines dispositions aussi. Là.
Ben,
en même temps, ça rappelle le rôle important et l'imputabilité des gens par rapport à la sécurité de leurs employés.
Tout à fait. Et des véhicules avec lesquels ils doivent se promener sur la route. Parce que dans ce cas-ci, l'accident, selon ce que la Sûreté du Québec avait dit, il s'était imputable vraiment à ce mauvais entretien.
Bien, si je ne me trompe pas, il avait manqué le frein carrément, puis il avait continué.
Sortie.
Ah non, puis méchant embardé, ça avait causé la mort du camionneur.
Oui, on parle d'un homme de 53 ans.
Absolument.
Oui.
Merci beaucoup, Marie-France.
Bienvenue, à demain.
À demain.